Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Le journal de ma vie, saison 2.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
20 août 2020.
Je suis peut-être tombée amoureuse de lui parce qu'il avait toujours la bouche sucrée.
Idée ce matin pour un titre, celui qui n'essaie pas.
Une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Une nouvelle saison disponible à partir de vendredi 26 septembre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
1 million de personnes d'après la CGT, 500 000 selon le ministère de l'Intérieur. Allez, disons 750 000 personnes ont défilé dans les rues le 18 septembre dernier contre les restrictions budgétaires et la précarité, pour plus de justice fiscale, d'investissement dans la transition écologique, etc. Certains même réclamaient l'abandon du projet de réforme de l'audiovisuel public. Dans la plupart des médias, on a beaucoup insisté sur les casseurs, les heurts, et à la fin, 309 personnes ont été interpellées. Donc il reste au minimum du minimum 499 691 personnes qui ont apparemment manifesté pacifiquement et qui avaient des choses à dire qui méritaient d'être entendues. Parce que c'est ça, se mobiliser. C'est ce jour-là, avoir voix au chapitre, être ensemble pour dire tout haut ce qu'on pense, rêver un monde meilleur ou juste le sien. Je rappelle que c'est tout à fait légal de manifester et même de crier ou de chanter dans la rue pour qu'on nous écoute. Et pour qui tendait l'oreille, comme nous l'avons fait ce jour-là, ce qu'il y avait à entendre est pour le moins surprenant. Savez-vous, par exemple, que même à la station F à Paris, le plus gros incubateur de start-up du monde, inauguré en grande pompe en 2017, de nombreux start-upeurs étaient en grève. Que les concepteurs de jeux vidéo, de logiciels informatiques étaient aussi dans la rue. Et avec eux, d'autres salariés du privé, comme des pharmaciens, qu'Émilie Chaudet et Martine Abbat sont allés écouter.
Moi, je suis Aïkel Guémard. Je suis développeur logiciel pour une petite boîte américaine qui s'appelle Red Hat, filiale du groupe IBM, et je suis délégué syndical. Alors, moi, j'ai eu la particularité, avant mon poste actuel, d'avoir fait une dizaine d'années en start-up. Quand on est un jeune ingénieur, c'est passionnant, hein, on fait des choses très intéressantes. Par contre, les conditions de travail, c'est assez éreintant. Les 35 heures, on ne connaît pas dans beaucoup de start-up. On a un rythme de vie qui est complètement déréglé. Comme c'est un modèle économique qui consomme beaucoup d'argent pour démarrer, mais qui n'en gagne pas beaucoup, ben ça se fait déjà aux dépens souvent des salaires, mais c'est aussi aux dépens de notre santé. Moi, pendant des années, j'ai pas eu de mutuelle. Des fois, c'était compliqué pour soigner. Des fois, on n'est pas payé aussi. Alors, j'étais jeune, j'avais de l'énergie. Donc, levé tous les matins à 6 heures, à 7-8 heures au boulot, couché très tard, pour reprendre tout de suite derrière. Et puis pareil, le rythme de la start-up, c'est un rythme qui est très rapide. En quelques mois, on peut faire faillite ou ne plus avoir d'investissement qui nous permette de tourner. Donc derrière, c'est vraiment très prenant, très peu de vacances. Des fois, il faut venir le week-end parce qu'on a une présentation très importante à préparer. Je pourrais raconter des tas d'exemples, hein, mais moi, j'ai déjà dû sortir des logiciels professionnels dans un taxi. On devait sortir le produit, mes collègues n'étaient pas disponibles. C'était plutôt mon rayon. Les jeux du calendrier font que, ben, en fait, moi je devais faire une présentation à une conférence en Allemagne. Il y a mon chef qui me dit « Oh là là, le produit va pas sortir aujourd'hui », alors que quasiment tout était prêt, il fallait l'intervention d'une autre personne qui n'était pas disponible. Je lui dis « Là, je suis à l'étranger, moi j'ai pas une très bonne connexion, en plus je dois prendre l'avion ». Voilà, donc moi j'arrive à l'embarquement, l'ordinateur d'une main, en train de vérifier que tout se passe bien et intervenir si c'est possible. Puis bon, à un moment, on rentre dans l'avion, on passe la sécurité, donc on est obligé d'arrêter. en espérant qu'on ne se fasse pas engueuler. Je l'ai fait, mais c'est épuisant mentalement. Nous, on a décidé de faire un appel à la grève qui sera reconductible pour tout le mois de septembre. Après, du côté du numérique, on se pose beaucoup la question, est-ce que j'ai un impact ? Parce qu'effectivement, quand on passe sa journée derrière un ordinateur, on bloque personne en soi, juste en arrêtant d'être derrière l'ordinateur. Effectivement, psychologiquement, c'est difficile pour les travailleurs du numérique d'être convaincus que la grève a un impact. Nos camarades de Sudrail, quand ils arrêtent de travailler, il n'y a plus de train. Ça se voit. Alors moi, je vous rassure, hein, quand je ne suis pas derrière mon poste de travail, j'ai toute ma hiérarchie qui est en panique. Je suis où ? Qu'est-ce que je fais ? On perd de l'argent. Effectivement, on retarde les projets. Alors nous, à notre échelle, on se dit « Ouais, on va retarder un projet de 2 jours, d'une semaine. Si je suis absent, est-ce que ça va changer quelque chose ?» Alors, pour avoir été responsable de sortie de produit, oui. Un retard de produit, même d'une heure, ça met en panique les finances. Ça a des conséquences. Donc, on a un impact. Quand un site de e-commerce ralentit ne serait-ce que d'un millième de seconde, il y a des études, notamment chez Amazon, qui montrent que ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Donc oui, on a un pouvoir de blocage, sauf qu'on n'en a toujours pas conscience. Et c'est pour ça qu'il nous faut du temps pour construire.
Moi, je suis Sam, je travaille dans une agence de design. Ça fait 2 ans, là. Donc là, on est devant Station F. À Paris, c'est un incubateur et un lieu qui accueille des startups financées par beaucoup de géants de la tech, notamment Xavier Niel et puis Mark Zuckerberg, enfin des Américains. C'est beaucoup de boîtes d'innovation, des boîtes qui tournent beaucoup sur des investissements privés, mais aussi sur trop d'investissements publics pour souvent inventer pas grand-chose. Et le problème, c'est que du coup, au passage, c'est souvent les travailleurs et travailleuses qu'on broie. Donc là, on est une trentaine, on va dire. Il y a un petit groupe qui est aussi en train de tracter à une autre entrée, donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas là. On a surtout une belle banderole, informatique, conseil, jeux vidéo, bureau d'études en lutte. Donc ça fait longtemps qu'il y a des gens qui se bagarrent dans notre secteur, mais là, en tout cas, en région parisienne, il y a une mobilisation qui a pris d'une manière un peu inédite, quoi. On a organisé du coup une assemblée générale où on s'est retrouvé à 200 personnes, dont au moins une bonne moitié de personnes qui venaient pour la première fois en AG. Et donc, se retrouver à 200, c'était vraiment une surprise pour nous. On voit que ce qui s'est construit avec le 10 septembre et ce qui s'est construit aujourd'hui a réveillé des gens qui, je pense, étaient en colère, mais peut-être n'avaient pas forcément de perspective. Depuis le début du rassemblement, on a des équipes qui sont devant les différentes portes. On a un tract avec nos revendications et on invite les gens aussi à venir à la manif cet après-midi. Bah en vrai, les gens sont intrigués déjà quand même, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des chasubles et des drapeaux syndicaux devant Station F. Donc je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu rigolo au début. Mais non, en vrai, les gens finalement, quand on leur parle des revendications concrètes, y en a qu'on arrive à convaincre. Il y en a, c'est clairement pas leurs intérêts d'être d'accord avec nous. Mais si on parle du concret, en fait, on peut ramener les gens aussi, quoi.
Des petits slogans, des petits poings levés. Allez, les têtes en lutte !
N'hésitez pas au patronat, sans faire sa loi, la vraie démocratie, elle est ici !
Pour les droits des travailleurs, pour les meilleures conditions de travail, contre les mesures du gouvernement.
Oui, je pense que tout le monde est au courant.
Il faut participer, c'est important, ne serait-ce que pour démontrer que les milieux de la tech, du numérique, des bureaux d'études, etc. est présent et potentiellement s'oppose à ce mouvement de manière construite.
Alors, moi je suis un développeur informatique de base. J'ai même lancé Itch avec des potes d'école et Click & Bot. Voilà, on a forcément des intérêts divergents, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que tous les chefs d'entreprise voient que leur salaire n'est plus assez. Alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon CGT qui est de dire il faut que ça paye plus.
Et il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail qui sont très importantes. Enfin, s'il y a un mal-être qui s'est installé, que ce soit par le management, que ce soit par les horaires, etc., ou même la charge de travail.
Ouais. En fait, depuis le Covid, les arrêts maladie ont explosé, notamment chez les moins de 30 ans. Est-ce que c'est vraiment les chefs d'entreprise qui ont changé leur comportement depuis le Covid, ou on a quelque chose qui a changé dans la mentalité, notamment des plus jeunes, depuis le Covid ? Donc, moi, je n'ai pas l'impression depuis 5 ans est devenu des tortionnaires. J'ai pas l'impression que les comportements des chefs d'entreprise ont changé depuis 5 ans. Par contre, j'ai le sentiment que que culturellement, la place du travail a changé. Et que donc, en fait, on accepte plus facilement de se mettre en arrêt maladie parce qu'à un moment donné, on considère qu'on n'est plus d'accord avec ce que le patron dit. Et ça, c'est pas normal, en fait.
Moi, ce que je pense, c'est que plutôt, il y avait une situation où le travail avait un impact plutôt négatif sur la vie des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement, quel que soit l'impact que ça va sur leur santé.
Vous travaillez jusqu'à l'épuisement, vous ?
J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, oui.
Mais il faut à un moment donné revenir sur Terre. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent bien plus dans d'autres pays, qui n'ont pas le sentiment de travailler jusqu'à l'épuisement. Et je ne parle pas du Bangladesh ou de la Chine, hein, s'il vous plaît. Et ici, on est quand même dans le pays qui a le temps de travail qui est un des plus bas, quand même. Et on a le sentiment qu'on est ceux qui travaillent le plus au monde. Bah, il faut.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on travaille autant qu'il y a 100 ans, alors que les moyens de production sont grandement modernisés. On a un niveau de technologie qui devrait nous permettre de beaucoup moins travailler.
Et on ne travaille plus pareil, on n'est plus dans la mine, on a un niveau de confort, on a une assurance maladie, on a une assurance retraite, on n'avait pas de ça à l'époque. Le travail est quand même plus aussi pénible qu'avant.
Il y a d'autres formes de pénibilité qui se sont créées. Là aujourd'hui, vous avez le burn-out, vous avez les troubles musculo-squelettiques, vous avez des gens qui se suicident. Regardez Orange, enfin, je suis désolé, il y a eu des vagues de suicides qui sont liées à des postes qui ne sont pas à la mine.
Je n'y pas, ça c'est un débat. Par contre, aujourd'hui, de passer le message permanent de dire le travail, c'est de la pénibilité, c'est du burn-out. En fait, je trouve que c'est pas le bon message. Moi, personnellement, je préférais qu'on se batte entre nous en disant quelle part du bénéfice va pour les salariés versus pour les patrons, plutôt que de dire il faut travailler moins parce que tout le monde est à l'usine et tout le monde est à la chaîne, alors que c'est plus ça la réalité.
Allons-y dans ce cas-là. Expliquez-moi comment vous répartissez les bénéfices.
Alors, je veux bien débattre de tout ça, mais là, pour le coup, je dois y aller. Mais moi, je pense que ce sur quoi on devrait tomber d'accord, c'est qu'il y a trop de charges salariales.
Vous voulez dire les cotisations ?
Il y a trop de cotisations salariales. En fait, il y a un moment donné...
L'exemple de la TVA, excusez-moi, mais il y a d'autres...
Je m'appelle Romane, j'ai 30 ans.
Je vois que vous avez une combinaison licorne, c'est un symbole ?
Oui, tout à fait. En référence ce qu'on appelle la chasse à la licorne auprès des investisseurs, on en a beaucoup parlé, des entreprises, des startups qui essayent d'intéresser les investisseurs, essayer d'être le plus innovant possible et compagnie, et qui, sur le principe, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, effectivement, c'est un truc qui entraîne énormément de dérives. Souvent, tout le monde est précaire volontairement parce que c'est l'esprit. On n'aura pas de l'argent tout de suite, mais... si on se donne à 300%, ça va finir par payer, c'est obligé. Pour peut-être devenir une entreprise dans laquelle, si des investisseurs veulent bien et qu'ils trouvent pas ça trop risqué, ils mettront de l'argent dedans, histoire de voir. On appelle ça une licorne, justement, parce que c'est trouver le truc imaginaire qui est unique et qui, justement, va attirer les investisseurs à coût de millions et de milliards. Et les investisseurs, ils sont pas idiots. Hein. Si jamais, au bout de quelques mois, il n'y a pas de résultat concret pour eux, ils retirent leur lit et puis on repart à zéro. Et effectivement, Station F est un haut lieu de cette mentalité-là. Avant, j'étais professeur dans les écoles de jeux vidéo. J'étais pas forcément plus qualifiée quand j'ai commencé à donner cours pour faire ça, mais finalement, on fait, voilà. Et à une époque, je faisais la coordination de certaines sections jeux vidéo d'écoles privées. J'ai enseigné dans ces écoles, et je peux vous dire, pour avoir fait le tour, c'est toxique as fuck. La dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'était une école. La première chose, c'est que mon directeur, après 8 mois de période d'essai, m'a dit « Si jamais t'avais 4 ans devant toi pour progresser et faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites, je te garderais. Mais en fait, moi, j'ai pas 4 ans. Et si jamais je vais pas y bouger les choses maintenant, je vais me faire virer. Donc, je préfère prendre quelqu'un qui est déjà opérationnel. Du coup, on a fait une rupture conventionnelle en ce sens. Et je suis quand même restée prof là-bas, en freelance. J'ai fait l'année en freelance quelques heures par semaine. Et à la fin de l'année, je reçois un mail qui me dit « On vous reprendra pas l'année prochaine, ça n'a rien à voir avec vos compétences. » On refait juste une beauté au programme de l'école. Ça veut dire le moins d'heures possible pour les étudiants, le moins d'heures possible pour les profs qui sont en CDI, qui sont là depuis 15 ans et qui peuvent pas virer. Parce que sinon, ça coûte beaucoup trop cher. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est réduire leurs heures de moitié tous les ans jusqu'à ce qu'ils décident de partir. Et effectivement, tous ceux qui étaient en freelance comme moi, hop, on les fait partir. C'est ça qu'ils ont fait. Pendant très longtemps, ça joue sur la santé mentale. On pense que c'est de notre faute. J'ai un CV qui fait 3 pages. Il y a peut-être un truc que j'ai pas appris dans tous mes échecs. Je suis infoutu de garder un job. Peut-être que voilà, j'aurais dû être encore un peu plus caléméléon, peut-être un peu moins honnête, jouer le jeu en fait, à un moment. Il y a un moment où, effectivement, je suis obligée de me dire, tous ces trucs-là, moi je suis devenue auto-entrepreneur, j'ai fait des ruptures conventionnelles, j'ai fait tous les trucs que, entre guillemets, Macron m'a dit de faire. Mais j'étais pas d'accord avec lui de base, mais j'ai vraiment fait tout ce qu'il a donné comme outil pour dire on va faire mieux, plus flexible, et je me rends compte qu'en fait, à part m'enforcer dans la précarité, j'ai pas fait grand-chose. Je gagne rien.
Là, comment vous vivez ?
Au crochet de ma tendre et chère mère. Très sérieusement, moi je suis en train d'essayer de me réorienter pour juste devenir professeur des écoles. Et franchement, heureusement que j'ai eu un parcours prof. C'est probablement une mauvaise idée d'essayer de continuer à bosser pour le jeu vidéo, de bosser pour cette industrie, de bosser pour mettre ses étudiants dans la merde, concrètement. Les écoles de jeux vidéo en France, c'est du privé, c'est 10 000 euros l'année. Tu payes pour avoir ton diplôme. Et à la fin, c'est un peu débrouille-toi et t'as payé 10 000 euros pour avoir le moins d'accompagnement possible parce que t'es de moins en moins bien formé. On se fait tous virer à tour de bras parce que c'est moins rentable de nous avoir et d'avoir de l'enseignement de qualité plutôt que d'avoir toujours plus d'élèves, toujours plus cher. Et si on n'a pas le temps de les former de manière efficace pour qu'ils deviennent les meilleurs, et soyons sérieux, on ne l'a pas, ils ne trouveront jamais de métier dans cette industrie. On les précipite pour dire « vas-y, débrouille-toi ».
Pharmacien, pharmacienne, est-ce que vous êtes content d'être là? Nous sommes tous là parce que nous sommes en... Nous sommes en... Je vois que vous êtes nombreux, ça me fait très plaisir. Je vois pas les gens là.
Je suis pharmacienne, je suis installée dans la ville d'Orsay, dans l'Essonne, depuis 25 ans maintenant. En fait, on est tous réunis aujourd'hui et tous mobilisés, mais France entière, contre un arrêté qui diminue drastiquement de 40 à 20% les remises qui nous sont octroyées par les laboratoires génériques quand on achète des génériques. Et à ce jour, c'est quasiment notre seule source de revenus. Donc cet arrêté est criminel pour la profession. Nos cabinets d'experts comptables ont évalué que 5000 pharmacies pourraient disparaître à cause de cet arrêté. Donc on est déjà aujourd'hui une profession qui est très serrée au niveau finance, même si on a toujours cette vieille image d'Épinal du pharmacien qui gagne très bien sa vie.
Ben oui.
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le pharmacien, vous le trouvez dans sa pharmacie 50 heures par semaine et il n'a plus la voiture, la belle voiture qu'il avait il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, il est vraiment obligé de faire attention à tout. Donc si on le saigne encore un peu plus, il ne peut plus survivre. C'est terminé. Moi, grosso modo, je suis autour de 4000 euros, ce qui après 6 ans d'études et puis 70 heures de travail par semaine, je ne trouve pas que ce soit volé non plus. Donc c'est une moyenne pour le salaire d'un pharmacien. Je travaille, je suis associée avec mon mari, on travaille ensemble depuis 25 ans et nous avons une pharmacienne et une préparatrice. Notre préparatrice prend sa retraite là en 2026, je ne la remplacerai pas. Donc ça veut dire que pour le service que l'on rend à notre patientèle, ça va être compliqué parce que je ne sais pas si je vais encore pouvoir vacciner, faire des tests, prendre le temps de discuter aussi du petit dernier, de la situation de divorce. On a aussi une part très humaine et psychologue. Donc tout ça, c'est le cœur de mon métier aussi. Et je serais vraiment malheureuse de devoir m'en priver si je n'ai plus le temps suffisant à accorder à mes patients demain. Et comme j'avais une pharmacie depuis 25 ans qui était très vieille, très moche, très poussiéreuse, toute petite, j'ai fait des travaux en 2023. Et bien clairement, je me suis réendettée et cet arrêté fait que je ne pourrais pas survivre. Je ne veux pas rembourser mon emprunt sur mes travaux. J'espère survivre 2 ans.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 52 ans. Si j'ai plus de pharmacie, je peux aller travailler pour quelqu'un d'autre, mais il faut encore qu'il m'embauche, puisque si on est tous dans le même état, personne ne m'embauchera non plus. Donc je ne suis même pas sûre de trouver un travail de salarié chez quelqu'un d'autre après.
Moi, je suis Charles et je suis travailleur sans papier en intérim en hôtellerie. Je suis réceptionniste de nuit. Je suis marocain, ça fait à peu près 13 ans que je suis en France sans papier, depuis 11 ans ici en France. Donc j'ai déjà fait un peu tous les métiers dans l'hôtellerie, donc je connais un peu entre chef de réception et valet de chambre, je sais à peu tout faire. Je fais entre les 3, 4 et 5 étoiles. Là, je vais aller travailler juste après. Déjà que genre, je sors du travail directement, je suis allé en manif. Je repars en travail directement. Mais je peux parler de tous les collègues et camarades qu'on a eu en AG et qui ont pour la première fois annoncé qu'ils faisaient grève pendant le blocage du 10, qui avaient plus d'appréhension sur la situation et qui, grâce à leur grève, a encouragé plusieurs de leurs camarades à faire grève pour aujourd'hui. Surtout que dans le privé, on n'a pas besoin de préavis et que juste rassurer ses camarades autour pour dire que c'est possible de faire grève, qu'on n'a pas besoin de demander d'autorisation ou quoi que ce soit, qu'un message suffit, c'est un peu le message qu'on porte nous en tant que collectif et en tant que travailleurs en lutte.
Moi, je m'appelle Marianne, je travaille en restauration depuis 12 ans et à la base, je suis en salle, du coup, je suis manager et sommelière. J'ai fait pas mal de lieux, un petit peu entre la bistronomie, la gastronomie, les hôtels 5 étoiles, Trattoria, voilà, donc un peu de tout. C'est ultra demandeur, c'est ultra stressant, des micro-agressions qu'on a tout le temps. Enfin, moi, je suis dans le service où les gens nous parlent de plus en plus mal et les rapports avec les clients qui sont sous alcool. Mais bon, voilà, le client est roi, c'est un peu une phrase qui nous reste en travers, quoi. Moi, j'ai fait un burn-out dans un hôtel et ça s'est très mal passé. J'ai dû prendre une avocate pour avoir une rupture conventionnelle parce qu'il ne voulait pas me la donner. Et donc, c'est toujours en bataille tout le temps, quoi. On se bat pour qu'on ait des droits respectés, on se bat pour les heures sup. Moi, je sais qu'un jour, j'ai fini un contrat et j'avais noté toutes mes heures, et heureusement. Et en fait, j'en avais 70 pas payées. Et au final, j'ai négocié, j'en ai eu 36 payées. Mais bon, voilà. Soit contenté de ce qu'on peut avoir, quoi. Moi, là, ça va faire un an que je suis au chômage. Je fais des extras un petit peu, mais sinon, je prends du temps pour moi parce que sinon, c'était soit ça, soit je me foutais en l'air, quoi. Donc voilà. Ça va mieux. Ça va mieux. Et c'est vrai que le mouvement de grève, etc., bah, ça motive. Et c'est vrai que ça aide moralement de savoir qu'il y a des gens dans la même galère que nous et qui sont là, quoi.
On obtiendra satisfaction. C'est par la grève et par l'action. C'est par la grève et par l'action, tous ensemble.
Donc nous, on est à la CGT et on travaille là-bas, ouais. À la FNAC.
À la FNAC Saint-Lazare.
Oui, c'est ça.
En librairie. C'est en rayon santé bien-être.
Moi, je suis en caisse. Ça fait une quinzaine d'années.
Et on gagne bien sa vie quand on travaille alors, en caisse.
Alors, pas du tout. Si vous voulez, pour vous donner un peu une idée, à chaque fois que le SMIC augmente, le salaire d'embauche de la FNAC augmente en même temps. Donc c'est pour vous dire, on est vraiment au pied de tout. Alors, ils s'étaient engagés quand ils ont racheté Darty, donc la FNAC a racheté Darty, ils s'étaient engagés à ce que les deux sociétés restent bien distinctes. Et aujourd'hui, ils reviennent sur leur parole et ils veulent nous mettre sur le système Darty, qui est que notre salaire fixe sera en dessous du salaire minimum légal. Et ce sera les primes qui vont faire que le salaire minimum sera rattrapé. Donc le salaire d'embauche sera en dessous du SMIC, en fait. Donc voilà, là, on lutte vraiment contre ça. Et en plus, tout ça, ça veut dire baisse de cotisation sociale. Donc moins d'argent dans la sécu, moins de... Enfin voilà, et sauf que derrière, le gouvernement va chercher où ? Dans notre poche à nous, pas dans la poche des entreprises. Donc c'est pareil, pourquoi on est là aujourd'hui ? Aussi pour les 211 milliards de cadeaux fiscaux qu'ils font aux grosses entreprises. Alors que nous... On doit cotiser toujours plus, avoir toujours moins de prestations sociales. Enfin, voilà, vous savez ce que c'est, quoi.
Clairement, les conditions de travail à la FNAC, pour le coup, c'est hyper compliqué parce qu'ils maintiennent vraiment les équipes en sous-effectif. Donc, c'est quand même un travail où il y a beaucoup de manutention. Il y a beaucoup de bacs. Les bacs sont lourds parce que enfin, tous les gens qui ont déménagé et qui ont fait des cartons livres savent très bien combien pèse un bac de livres. Et même quand on va à la médecine du travail, qu'on leur dit bah, « j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal partout en vrai, parce que les gens là-bas, ils ont 30 ans, ils ont encore de gens de 70 ans, hein, clairement. Et à la médecine du travail, il fait « Ah ben, vous avez pensé à porter les bacs à deux ?»« Ah ben oui, on aimerait bien quand on fait le tri, en fait, mais souvent, on est seul et on peut pas porter les bacs à deux. »« Ah ben, vous en avez parlé à vos responsables ?»« Ah ben oui, en fait, mais ils s'en foutent. » Ils vont nous dire bah, « Pliez les genoux, en fait, quand vous soulevez des bacs, adoptez les bons gestes et postures, mais quand on est tout seul et que, enfin, on a beau plier les genoux pour soulever un bac, le bac, il fait le même poids, en fait. » Et nous, on est quand même tout seul. Donc non, les conditions de travail dans les grosses enseignes comme ça sont vraiment pourries et les responsables et les directions n'en ont rien à faire. C'est pas un sujet pour eux.
La FNAC, c'est toujours aussi bénéficiaire ?
Oui, ouais. Les actionnaires sont contents. Alors la FNAC, ça appartient à plein d'actionnaires.
Oui, ça appartient plus aux salariés en tout cas.
Partage des richesses. Toujours la même chose, hein. Faut aller chercher l'argent là où il est et c'est pas dans les poches des pauvres en fait et des travailleurs. Enfin, voilà.
J'ai un peu peur de comment ça va se terminer.
Il y a des enfants et des personnes âgées, des personnes en fauteuil roulant,
des personnes à la fin du cortège. Généralement, c'est aussi les plus lentes et les plus vulnérables. Quoi.
Donc, en fait, le problème, c'est que
c'est dommage
une seule là. Sortie, la seule solution, c'est juste de dégager les gens par la force. Donc, dans tous les cas, il y aura un
malheureusement,
problème.
Malheureusement, c'est comme ça qu'ils font.
Mais c'est pas les gaz lacrymo qu'on a entendu.
Il y en a eu. J'ai eu
le premier avant les trucs de désencerclement.
C'est rien, mais ça fait trop peur.
On dirait des feux d'artifice.
Mais oui, mais j'aime pas ça.
Non plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Moi, je travaille dans l'édition des livres.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Parce qu'il est nécessaire de manifester encore, même si on a vu que ça marchait pas trop en ce moment avec le gouvernement. Mais c'est la seule chose, pour l'instant, je trouve, qu'on a à notre possession. Et on n'a pas beaucoup d'autres solutions pacifiques. Donc, je vais pas tarder parce que là, ça bombarde vachement. Mais... Voilà, il faut faire porter notre voix encore, et si on est très nombreux, ça va peut-être bouger les choses, on ne sait pas. Mais rien faire, en tout cas, c'est pas possible. C'est trop frustrant et c'est rageant. Faut pas s'arrêter. Vraiment pas. Même si ça fait flipper ce qu'on entend.
Vous avez quel âge ?
26 ans. Et ce qui est bien, en parlant d'âge, c'est qu'il y avait tous les âges dans le cortège. Mais vraiment tous, des tout petits comme des très âgés, de toutes les professions, de toutes les origines, de toutes les religions... Donc ça prouve que ça va vraiment pas en ce moment et que tout le monde est là pour dire bon ça va pas donc on bouge ensemble. J'aimerais être un peu fière de mon pays s'il vous plaît. Ça a un impact sur mon avenir parce que je le vois pas possible de manière sereine. Ne pas me mordre les doigts à la fin du mois parce que j'ai pas assez pour payer mon loyer ou l'écologie pareil, on fonce droit dans le mur et pourtant on est tous là à se motiver pour les mêmes raisons et là-haut ils veulent pas entendre, ils pensent qu'à leur petite tête et c'est très frustrant et pour la prochaine génération on aimerait que ça se passe autrement. On m'a dit que notre génération avait les clés en main pour pouvoir bouger, donc je l'ai pris au premier degré et je me dis bon bah allez go. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là, pour aider les générations futures, pour aider notre génération, les générations passées qui s'en prennent pas la gueule en ce moment en plus. Il faut que ça aille mieux, s'il vous plaît.
Voilà. Ça fait grève, ça fait grève, blocus.
I was running for the hills, I don't know more about today. Thinking backwards, thinking forward, either way, not much to say. Isolation's part of way to deal with this mess. Falling at my feet, I knew my time was gone.
C'était 18 septembre, même les start-up sont dans la rue. Un reportage de Martine Abbat et Émilie Chaudet, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Aïkel, Guémard, à Sam, à Roman, à Hugo, à Pauline, à Diane et à la personne qui a gentiment récupéré et rendu le portable de Martine Abbat. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, vous devez absolument écouter la nouvelle saison du Journal de ma vie, 5 nouveaux journaux intimes, Kadila Benedjaizou et Clémence Grosse, ont découvert et mis en onde pour vous.